Écho sans frontières, Magali Homo, Antoine Cavallerou, sur Média.
Un Eldorado, un mot souvent utilisé pour qualifier l'Afrique, plus d'1,2 milliard potentiels consommateurs, un continent perçu comme un relais de croissance face à des marchés occidentaux en déclin, et le marché de l'automobile n'échappe pas à cette règle.
Depuis 5 ans environ, les constructeurs se jettent sur l'Afrique. Renault et PSA au Maroc, Volkswagen au Rwanda, Kia en Algérie, les projets ne manquent pas. Chaque trimestre, une nouvelle annonce, une nouvelle usine.
Un marché en plein essor, décortiqué, analysé, passé à la moulinette d'Éco sans frontières, de Johannesburg à Tanger, où nous retrouverons le PDG de Valeo, numéro 1 français de l'équipement auto. Nous avons un peu de route. Attachez vos ceintures, c'est parti.
Alors on ne va pas se mentir, pour l'instant, le marché de l'automobile en Afrique, c'est surtout ça.
Elles arrivent la plupart du temps de nuit, par cargo entier.
0,7 mètres pour la position de la rampe.
En provenance d'Europe pour arriver au Bénin, les voitures d'occasion débarquent massivement en Afrique, en plus ou moins bon état.
Des fois, ça devait comme accidenté comme ça, mais ça, c'est propre, c'est bon état.
Le port de Cotonou s'en est fait une spécialité pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les voitures d'occasion importées débarquent ici pour être réexportées vers les pays voisins. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Togo. Le marché est considérable. En 2015, 300 000 véhicules sont passés par les revendeurs béninois. Des voitures d'occasion et beaucoup de diesel, particulièrement prisés par une partie de la clientèle.
Tiens, l'ancien, tu connais.
C'est ça même qu'on veut. L'essence, ça ne marche pas trop. Diesel, ça marche plus que l'essence. Là, c'est un peu plus économique que l'essence. Et la gasoil, ça se vend partout.
Combien de diesels d'occasion retrouvent une seconde vie en Afrique chaque année? Des centaines de milliers. Mais avec les restrictions annoncées en Europe, le continent se prépare à se voir inondé de diesel.
L'Afrique inondée de véhicules diesel, extrait d'un reportage de la chaîne de télévision France 2. Difficile d'établir un chiffre dans un marché largement dominé par l'informel. L'agence Ecofin assure qu'entre 3 et 4 millions de véhicules d'occasion sont importés chaque année.
Au-delà des conséquences désastreuses pour la santé, hausse de la pollution dans les métropoles africaines, hausse des maladies respiratoires, eh bien, cette appétence pour la voiture d'occasion freine le marché du neuf et par ricochet, le développement d'une industrie automobile sur le continent.
L'été dernier, la Côte d'Ivoire a décidé de prendre le taureau par les cornes en annonçant une mesure drastique, l'interdiction d'importer des véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Malgré la levée de boucliers chez les importateurs, le ministre des Transports, Amadou Koné, vantait une décision allant dans le sens de l'histoire. Il était au micro de France 24.
Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on ait des véhicules neufs à bas coût, assemblés en Côte d'Ivoire. Il faut créer les conditions, il faut créer de nouveaux emplois. Après, il y a la réalité en ce qui concerne la pollution de l'air, qui est une réalité que nous vivons tous ici à Abidjan.
Et la Côte d'Ivoire n'est pas seule à vouloir limiter l'importation de voitures. D'autres pays veulent carrément s'attaquer aux véhicules neufs importés, imposant de lourdes taxes. L'objectif, développer leur propre chaîne de production. Rien n'est encore acté, mais le Nigeria, le Kenya ou encore le Ghana y réfléchissent sérieusement.
À l'heure actuelle, l'Afrique ne représente qu'entre 1 et 2% des ventes mondiales de véhicules neufs. Et ces ventes sont même en recul. Environ 1 million ont été écoulés en 2017.
Ce qui n'empêche pas les constructeurs occidentaux et asiatiques de s'implanter sur le continent, souvent des petites unités de production comme en Égypte, en Tunisie ou encore en Algérie. Les usines les plus importantes sont en Afrique du Sud, qui est de loin le premier marché africain pour la vente. L'allemand Mercedes et le chinois Beijing Automotive y ont lancé des projets à plusieurs centaines de millions d'euros ces derniers mois.
L'Afrique du Sud, il faut le dire quand même Antoine, concurrencée, voire même dépassée dans certaines catégories par le Maroc, le nouveau cador africain. Et pour en parler, on accueille Saad Ben Mansour, bonjour Saad.
Bonjour Magali.
Directeur de publication d'Aujourd'hui le Maroc, on vous retrouve exceptionnellement en première partie d'émission aujourd'hui pour notre dossier sur l'automobile. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit historique du pari hein, de l'automobile au Maroc avec ces questions. Quelles sont les principales entreprises ou où sont-elles implantées? On va faire un petit panorama pour commencer.
Magali, d'abord, quand on parle d'automobile au Maroc, il faut peut-être rappeler juste que ce n'est pas un secteur qui est tout à fait récent. Hein. l'histoire du Maroc avec l'automobile remonte quand même à l'année 1959, hein, c'est il y a pratiquement 60 ans, avec la création de la Société marocaine de construction automobile, connue le plus communément sous l'appellation Somaka, qui existe encore aujourd'hui. Donc, déjà dans les années 60, il y avait la première, comment dire, naissance d'un embryon, hein, de ce qui allait devenir après une usine de fabrication automobile pour le compte d'un grand constructeur comme Renault, hein. Il faut juste, pour la petite histoire, rappeler que dans les années 60 et 70, c'est pas pour faire de la publicité, mais à Somaka, on montait des Renault 4, des Renault 16 et des Renault 12. En fait, ce sont des best-sellers du constructeur Renault. Alors aujourd'hui, c'est l'automobile, bien sûr, le secteur automobile au Maroc n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y avait dans les années 60, bien sûr. Aujourd'hui, le secteur automobile au Maroc, c'est quelque chose comme 200 entreprises qui sont ce qu'on appelle des équipementiers. C'est aussi trois constructeurs connus, en tout cas deux connus, qui sont ni plus ni moins que Renault, Peugeot PSA et le chinois BYD, qu'on connaît souvent BYD, et qui est spécialisé dans les voitures électriques. Donc voilà, déjà trois constructeurs, 200 équipementiers. Il y a quelque chose comme 50 usines, hein, qui sont ce qu'on appelle des équipementiers de premier rang, c'est-à-dire des équipementiers qui fournissent des pièces qui sont montées directement sur les voitures assemblées, et non pas des pièces de rechange. Aujourd'hui, l'automobile, c'est quand même quelque chose comme 158 à 160 000 emplois. À la sortie, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une capacité d'environ 700 000 véhicules qui peuvent être montés potentiellement chaque année. Renault monte déjà 400 000. PSA Akénitra va monter quelque chose comme 200 000. Et le chinois BYD devrait monter quelque chose comme 200 000. Donc, on s'approche du million de pièces, 1 million d'unités montées chaque année. Et un petit chiffre sympathique, c'est l'export. 65 milliards de dirhams à l'export, voire 70 milliards de dirhams à l'export, en tout cas en 2018. Voilà, en gros, les chiffres qui placent donc le Maroc sur la liste quand même des, non pas des top 10, pas encore, il n'est pas dans les top 10, mais il est dans les top 20 des pays producteurs d'automobiles, voilà, au monde, bien sûr.
Ouais, donc le Maroc qui a fait un beau parcours, hein, depuis 1959, vous l'avez dit aussi, le Maroc est maintenant un des leaders, hein, en Afrique en tout cas. Pourquoi? Comment on peut expliquer ce leadership?
Ben, écoutez, Magali, il faut dire, quand on parle de leadership, effectivement, aujourd'hui, il y a quelque temps, en Afrique, il y avait l'Afrique du Sud qui était toujours classée comme étant le plus gros producteur de voitures et de véhicules, toutes catégories confondues en Afrique. Et ben, depuis un an, le Maroc est passé devant l'Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, comment est-ce que ça a été possible dans le domaine de l'industrie automobile, Magali, et dans l'industrie de manière générale? Il y a un principe qui est connu, important, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, plus les volumes fabriqués, produits sont importants, et plus l'outil de production devient performant et devient intéressant sur le plan économique. Dans le secteur de l'automobile, il y a la barre dont on parlait du million de véhicules. Une plateforme industrielle automobile, c'est-à-dire un pays, devient intéressant pour des constructeurs quand sa production dépasse 1 million de véhicules par an. Aujourd'hui, on le sait, le Maroc s'est donné les moyens pour y arriver, hein. Le million d'unités, on y est presque, on y est pratiquement. Et il faut compter aussi avec l'effet d'entraînement. Alors, comment on y est arrivé? Tout simplement, je pense qu'on peut très rapidement rappeler qu'il y a d'abord une infrastructure et des zones industrielles, je dirais même des technopôles dédiés. Qnetra Automotive City et Tanger Automotive City, hein, c'est 345 hectares d'un côté, c'est 200, je pense 270, si mes souvenirs sont bons, 280 hectares de l'autre côté. Et c'est aussi de la formation adaptée au métier de l'automobile. C'est aussi un cadre incitatif, c'est des encouragements, c'est des avantages fiscaux, hein, des subventions, des soutiens financiers, des aides spécifiques. Donc voilà, grosso modo, le Maroc a tout fait, hein, sur le plan, c'est-à-dire législatif, sur le plan légal, sur le plan industriel, c'est-à-dire infrastructure, pour justement permettre et pour encourager les constructeurs à venir, ben, dès qu'on a le premier, le deuxième, et ben, c'est une sorte d'effet d'entraînement. Et il y a tout autour un tissu d'entreprises qui gravitent autour des constructeurs. Et plus ces entreprises sont nombreuses, plus ça devient intéressant pour les constructeurs de venir s'installer dans un pays comme le Maroc.
Et c'est pourquoi le secteur est en pleine croissance ici. Donc tout ça, c'est très bien. Hein, mais j'imagine que le Maroc ne va pas vouloir s'arrêter là. Quelles sont les opportunités maintenant ?
Ah bah, effectivement, Magali, je suis d'accord avec vous. C'est dans le domaine industriel et encore plus dans le domaine de l'industrie automobile, l'obsolescence est vite arrivée, comme on dit. Bon, d'abord, je pense que les deux gros défis, opportunités, mais aussi défis. D'abord, pour le Maroc, c'est il va falloir vraiment monter en gamme aujourd'hui dans ce qui est existant. C'est-à-dire le taux d'intégration aujourd'hui, le taux d'intégration, c'est à peu près, il est à peu près de 50, entre 50 et 60 %. C'est quoi le taux d'intégration ? C'est quand un véhicule sort d'une ligne de production au Maroc, la partie qui est valeur ajoutée qui a été créée au Maroc, elle est de 60, entre 50 et 60 %. Aujourd'hui, je pense pour les années à venir plutôt, le défi, c'est de porter ce taux d'intégration qui est au fait la valeur ajoutée qui est créée au Maroc. Il faut le porter ce taux à 80 %. Et à l'avenir, il faut penser à un quatrième, voire un cinquième constructeur. Hein, il faut savoir que dans un pays comme la Turquie, il y a 15 constructeurs qui sont installés. Nous en sommes 4-3 aujourd'hui au Maroc. Mm. Donc, un quatrième, un cinquième constructeur. Il faut aussi étoffer le tissu des équipementiers qui produisent de la pièce pour les constructeurs. Je prends toujours l'exemple de la Turquie. On en a 200 au Maroc, il y en a 1000, plus de 1000 en Turquie. Donc, vous voyez un peu la comparaison. Alors, voilà pour le premier défi, c'est-à-dire consolider, développer ce qui se fait. Mais, et je parlais d'obsolescence, Magali, je pense que la voiture, l'automobile, dans les 10-15 prochaines années,
elle évolue
va beaucoup changer.
Voilà.
Elle va beaucoup changer. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans un horizon de 5 à 10 ans, le quart seulement des voitures qui vont circuler, 25% des voitures qui vont circuler, seront dotées de motorisations traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence et le diesel.
Oui, on va vers une énergie plus verte.
Seront soit électriques, soit à hybride, soit avec des piles hydrogène. Or aujourd'hui, le Maroc, avec son outil industriel automobile, il va falloir qu'on se positionne sur la voiture du futur.
De demain, oui.
Et donc, forcément, il va falloir qu'on monte en gamme dans la chaîne de valeur, qu'on ne soit plus uniquement un pays en fait de l'assemblage, mais plutôt un pays en fait de la recherche et du développement, un pays où on fait de la conception. D'accord ? Et donc, il va falloir positionner, préparer l'industrie automobile marocaine aujourd'hui aux tendances du futur, c'est-à-dire la voiture low cost, mais surtout aussi la voiture intelligente, la voiture connectée, la voiture autonome, la voiture électrique. Donc, tout ça suppose que les politiques publiques en matière industrielle, notamment pour ce qui est de l'industrie automobile, aillent justement dans ce sens à faire monter en gamme l'industrie pour qu'elle devienne réellement une industrie tournée vers le futur et pour surtout éviter l'obsolescence industrielle qui est la pire des choses qui puisse arriver à une industrie.
Voilà, le Maroc qui doit être intégré dans le futur de l'automobile. Merci Saad Ben Mansour.
Merci Magali, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Suite de notre dossier auto au Maroc, l'équipementier français Valeo inaugurait la semaine dernière une deuxième usine à Tanger. Christophe Godineau a pu rencontrer son PDG.
Jacques Achenbois, bonjour.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Valeo renforce sa présence à Tanger. Quel est l'objet de votre venue dans notre ville du Détroit ?
La principale raison, c'est l'inauguration de notre usine. En fait, elle a commencé à produire depuis quelques mois, mais on est en train de l'étendre. On avait une activité liée à l'éclairage, on aura maintenant une autre activité liée à la thermique moteur. Donc ce sont deux piliers du groupe qui s'installent et qui se développent ici à Tanger. Et après un démarrage très prometteur sur la partie éclairage, et ce démarrage qui commence sur la partie thermique, on s'est dit qu'il était temps d'inaugurer l'usine. On a déjà 600 personnes qui travaillent, qui font un travail absolument formidable. Donc j'ai souhaité venir et faire cette inauguration aujourd'hui.
Inauguration, puis extension.
Inauguration et extension, puisqu'il y a une usine qui est déjà assez pleine, qui produit depuis quelques mois, depuis un an en fait, et une usine qui va démarrer. L'usine est construite, les machines commencent à arriver, la production commencera au mois de juin, donc tout ça est très rapide. Et il y a une extension parce qu'on a pris une option sur un terrain voisin pour penser plus loin que les quelques prochaines années, mais on essaye de penser à 5-10 ans et on a beaucoup d'ambition.
Pourquoi Tanger ? Est-ce que l'implantation de l'usine Renault à Tanger-Med n'est pas innocente ?
Ah si, mais on suit nos clients. On est en train de voir se créer ici au Maroc et principalement dans la zone de Tanger un écosystème automobile qui est extrêmement intéressant. Renault et Peugeot, ce sont les deux origines, deux groupes origines de Valeo. Il y a une trentaine d'années, on faisait l'essentiel de notre chiffre d'affaires avec ces deux clients qui sont très fidèles. On essaie de les accompagner. On accompagne aussi nos clients allemands, nos clients japonais, coréens, américains, un peu partout dans le monde. Mais ici, finalement, c'est retour aux sources. Les deux principaux producteurs de voitures sont nos deux clients historiques, Peugeot et Renault, et on est un de leurs principaux fournisseurs. On se retrouve entre nous dans un écosystème extrêmement intéressant. Et ce qui me frappe, vraiment, c'est ces trois choses. On est venu pour nos clients, bien sûr. Nos équipes sont formidables. C'est une des rares usines qu'on a démarrée qu'avec des managers, des ingénieurs et des opérateurs totalement marocains. Il y a une assistance technique, bien sûr, d'usines principalement situées en Espagne, mais l'intégralité du personnel est marocain. Et la troisième raison, et je l'ai avoué et dit au ministre de l'Industrie qui est venu et qui nous a fait l'honneur de venir à l'inauguration et à l'équipe de Tanger-Med, l'assistance qu'on a eue, le soutien des autorités publiques marocaines est exemplaire. Il y a vraiment eu une rapidité d'exécution, une aide permanente. Il y a toujours des problèmes quand on démarre un site. Et la zone franche dans laquelle on est installé et l'aide des autorités marocaines a été absolument clé pour le succès de notre démarrage. Je l'avoue vraiment sans aucun embâge. Ça a été une raison essentielle de notre succès. Nos clients qui nous font confiance, nos collaborateurs qui font un travail exceptionnel.
Et le Maroc qui nous accompagne.
Et les autorités marocaines qui nous accompagnent.
Alors Valeo au Maroc, c'est en quelques chiffres combien de personnes employées ?
Alors c'est l'année dernière un peu moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Quand on se projette à 3-4 ans, ce sera un demi-milliard, 500 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui c'est 600 personnes, ça sera près de 1000 personnes à la fin de l'année. Donc on fait une espèce de multiplication et on voit qu'on sera plusieurs milliers de collaborateurs d'ici 4-5 ans. Mais on voit que l'écosystème qui se développe extrêmement rapidement peut nous servir d'une base non seulement faite pour le Maroc, mais aussi pour alimenter nos produits dans les différentes parties, principalement de l'Europe, mais aussi autre part. On livre des produits déjà en Amérique du Sud et dans d'autres usines de nos clients en Roumanie. Et pour nous, c'est une base qu'on considère comme une base essentielle dans l'avenir. Alors, nos équipes se projettent à 5 ans. Moi, j'essaie de nous projeter à 10 ans. Je commence à réfléchir à implanter ici aussi non seulement des usines, mais aussi des centres de développement, des centres de recherche. La qualité des ingénieurs. Le système de formation marocain est très proche du système français avec les universités et les grandes écoles. Et on a une qualité d'ingénieurs que je découvre beaucoup dans ce
Donc Valeo au Maroc, c'est qu'un début.
Ah, c'est qu'un début, c'est absolument un début. Alors, c'est toujours très difficile quand on vient de naître de savoir ce qu'on sera 10 ou 20 ans plus tard, mais on essaye de s'implanter d'abord pour le long terme. Chaque fois qu'on est dans un pays, on a une vision très long terme du pays. On essaye de prendre des emprises industrielles suffisamment vastes. Moi, je commence à réfléchir à que pourrait être Valeo dans 10 ans. Et en rêvant, ce sera deux fois plus grand que dans 5 ans.
Qu'est-ce que ça représente le Maroc par rapport à toute l'activité du groupe ?
C'est tout petit aujourd'hui. Le groupe va faire probablement autour de 20 milliards de chiffre d'affaires cette année. On est le premier équipementier français, on est le premier déposant de brevets en France. On est toujours numéro 1 ou numéro 2 mondial dans chacun de nos métiers. On a 4 métiers principaux, l'un qui est tout autour du moteur et on est le numéro 1 mondial dans tout ce qui est électrification des moteurs. On est le numéro 1 mondial dans l'éclairage et dans l'essuyage. Deux implantations nous avons ici au Maroc. On est le numéro 2 mondial dans tout ce qui est thermique moteur et tout ce qui est air conditionné et chauffage des voitures, le numéro 2 mondial. Et tout ce qui est l'assistance à la conduite, les capteurs des caméras, des radars, des capteurs ultrasons, des lidars, donc tout ce qui sont les yeux et les oreilles de la voiture, là on est de très loin le numéro un mondial. Donc on est le premier équipementier français, on doit être le sixième probablement mondial, mais le plus important c'est pas la taille, c'est d'être vraiment le leader dans chacun de nos métiers, ce qui est notre cas.
Le secteur automobile au Maroc est un secteur très porteur, c'est quelque chose qui vous motive aussi, j'imagine ?
Ah oui, bien sûr. Pour qu'on puisse s'installer, pour qu'il puisse y avoir une industrie très puissante, il faut à peu près 1 million de voitures. Le Maroc n'y est pas encore. Ce sera 600-700 000 dans les quelques mois, années qui viennent. On voit qu'il y a des plans d'un certain nombre d'autres constructeurs de s'implanter. Ceux qui sont présents, Peugeot et Renault, ont aussi des plans pour se développer. Donc on voit que le million de véhicules dans cette zone, ce sera demain. Donc il faut qu'on s'y prépare. Et il y a toute l'Europe qui est à côté. Donc c'est une zone qui, quand on se projette, peut être une base, comme je disais, à la fois de production, mais aussi de conception de nos produits.
Et pour ça, Tanger a une situation assez stratégique, à 15 km de l'Espagne.
Absolument. Et puis, quand on voit ces décisions stratégiques qui étaient faites il y a quelques années, de créer ce port et de projeter là aussi le port de Tangermed dans les décennies qui viennent, et de se dire qu'il pourrait concurrencer des ports aussi importants que Barcelone, par exemple, ça fait rêver. Et c'est la vision qu'on a pour nous-mêmes. On est une entreprise qui croissant extrêmement vite, de voir qu'un certain nombre de pays comme le Maroc se projettent dans l'avenir, à la fois sur les sujets de formation, sur les sujets d'emploi, sur les sujets de développement industriel, de développement des infrastructures. C'est à ce rêve qu'on veut être associé. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était très très petit au Maroc. Il y a 2-3 ans, on a pris cette décision d'investir massivement. Et les premiers pas qu'on fait dans ce pays sont très très encourageants.
Est-ce qu'il y aurait une ombre au tableau, un bémol à votre enthousiasme ou pour l'instant tout est formidable ?
Tout est formidable. Je pense que dans une journée comme celle-ci, qui forcément pour nos équipes, pour les autorités marocaines aussi, et puis pour moi, c'est un moment très important de symbiose entre notre environnement local, nos équipes, l'ensemble du management de Valeo. Regardons aujourd'hui que les points positifs, les points négatifs, il y en a toujours dans une vie industrielle. Les choses sont jamais linéaires, elles se développent jamais tout à fait comme on voudrait. Mais on a des équipes en qui j'ai totalement confiance, qui, vu le travail qu'ils ont fait ces derniers mois, je suis sûr qu'ils feront un travail formidable dans les années qui viennent.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Jacques Aschenbrois, le patron de Valeo, était avec Christophe Godineau. En route, Éco sans frontières continue. Dans un quart d'heure, nous irons faire un tour dans le futur. À quoi ressemblera la voiture de demain? On s'est posé la question dans le Culture Éco. La bataille pour Anadarko est terminée. La compagnie pétrolière américaine bientôt rachetée. Nous appellerons Francis Perrin. Mais là, c'est au Maroc qu'on fait une pause sur le bas-côté.
Oui, dans le quartier Aïria d'Rabat, où l'on retrouve un jeune Marocain diplômé de Sciences Po Paris, de retour à Rabat chez ses parents, il a eu une idée, créer un carnet de tickets à destination des plus pauvres. Ça s'appelle Sadaka, une idée d'ailleurs qui tombe à pic pour ce mois de Ramadan. Le concept est simple, on achète un ticket chez un épicier, 30 dirhams les 12. Une fois ces tickets en notre possession, on peut les donner à une personne dans le besoin, dans la rue. Le où la mendiante peut ensuite aller directement acheter des denrées alimentaires de première nécessité avec leur ticket chez les commerçants partenaires. C'est un reportage de Maud Ninov.
Début du Ramadan et déjà le grand test pour Mehdi. Il vient voir son épicier, premier partenaire de son projet de ticket pour l'aumône.
Je viens voir pour les tickets Sadaka. Tu as une boîte ?
Oui, j'ai une boîte.
Tu les as encore ? Tu as vendu un peu ou ?
Oui, j'ai vendu un carnet.
Les tickets Sadaka sont des tickets restaurants pour les pauvres. Ils se présentent sous la forme de carnets qui contiennent chacun 12 tickets. 12 tickets de 2 dirhams 50. Si je distribue le ticket à une personne dans la rue, elle pourra revenir ici et acheter tous les produits que propose le marchand. En l'occurrence, ici, on est chez un primeur, du coup, fruits et légumes.
L'objectif est donc de permettre aux plus démunis d'acheter uniquement des produits de première nécessité sans leur donner directement de l'argent.
L'idée, c'est justement pour le donateur de pouvoir faire confiance en son don, en sa finalité, faire en sorte de savoir où va aller l'argent qu'il est en train de donner. Et c'est ça, je pense, qui est super important et qui va petit à petit assainir tout le circuit de la mendicité et de la donation.
C'est bien d'abord ce qui a convaincu le commerçant.
C'est bien pour aider les gens à qui on donne le ticket. Il n'y a pas d'argent, c'est pour qu'ils achètent à manger et rien de mauvais. Ici, il va acheter des pommes, des bananes, des bonnes choses. Parce qu'avec l'argent, il peut acheter de la drogue ou autre chose. Il n'y a aucun problème, on va t'aider.
C'est aussi gagnant pour l'épicier. Mehdi s'occupe lui-même de récupérer l'argent des carnets vendus à la pharmacie voisine, à la supérette. Puis il redistribue au commerçant qui a été payé en ticket.
Ils comprennent très vite que ça leur fait plus de prospects, plus de clients et du coup un chiffre d'affaires plus élevé.
Et nous, les tickets, on les change avec l'argent.
C'est facile.
Aucun problème.
Encore faut-il convaincre les donateurs d'acheter des carnets Sadaka. La mendicité attire de plus en plus de méfiance. On aide plus volontiers aujourd'hui les gens qu'on connaît. Assise devant la mosquée du quartier, Fatima est veuve et mendie pour nourrir ses 3 enfants. Elle est persuadée que les tickets peuvent l'aider.
Les gens qui donnent n'ont plus confiance. Moi j'ai bien vu des gens qui voulaient donner aux plus pauvres et finalement c'est pas à eux que ça profite.
Pour l'instant je distribue les tickets Sadaka ici à Al Riyad. Tu en as déjà eu ?
Je les ai déjà échangés chez l'épicier. J'ai acheté des gâteaux, des yaourts et du lait.
Mehdi travaille donc sur le terrain pour sensibiliser les habitants du quartier. Et pour les convaincre, il a même développé un outil inédit de traçabilité avec un code pour chaque ticket.
Chaque ticket est identifié par pas mal de sécurité, bien sûr, qui nous permet de s'assurer que le ticket n'est pas un faux, mais aussi un QR code qui lui permet d'assurer le suivi du ticket et de savoir où le ticket a été dépensé.
Avec son téléphone, chaque donateur peut ainsi vérifier que son ticket a été utilisé à bon escient. Ici, les clients de passage sont convaincus par l'idée.
Vous vous assurez que le monde ira directement au bénéficiaire, donc il n'y a pas d'intermédiaire, donc automatiquement, parce que le fait de faire une association intermédiaire, on est toujours sceptique de voir si jamais il y aurait des détournements.
Là, on apporte beaucoup plus de transparence parce que sur chaque ticket, vous avez un code. Tout votre don, Kimchi Sadaka, il n'y a aucune marge qui est prélevée.
Bon, c'est une très bonne idée, bien sûr. On gagne en transparence.
Le concept est simple et sympa. J'en ai parlé à mes collègues. Ils étaient convaincus que la chose serait intéressante. Parce que donner de l'argent, ici au Maroc, bon, comme tu le sais, c'est un peu... On va acheter n'importe quoi.
Donc c'était l'instrument qu'il te fallait pour commencer à faire plus de donations. Ouais. Parce que tu ne donnais pas auparavant dans la rue, c'était pas...
Ah, j'en donnais pas. Je ne donne pas. Même
et
pas,
le gardien, par exemple ?
Lui non plus. Non, avec ça, c'est vrai que c'est plus sérieux.
Du sérieux, Mehdi ne manque pas. Diplômé de Sciences Po Paris, il a fait le choix du retour au Maroc il y a 2 ans et demi pour aider, dit-il, le pays où il a grandi. Il devrait avoir bientôt rendez-vous avec la Banque du Maroc. Soutiendra-t-elle ou non ? Il espère beaucoup.
Les tickets Sadaka, un reportage de Maud Ninov. Merci beaucoup.
Francis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Policy Center for the New South. Vous êtes notre spécialiste maison du gaz et du pétrole. Il y a 3 semaines, Francis, vous nous parliez de la possible fusion Chevron-Anadarko, une acquisition qui était en très bonne voie à l'époque, sauf que depuis cette chronique, eh bien, 2 autres majors sont entrés dans la bataille, l'américain Occidental Petroleum et le français Total, qui ont eux aussi jeté leur dévolu sur Anadarko. Et on l'a appris jeudi, cette semaine-là, Chevron renonce finalement à son opération. Pourquoi un tel renoncement ?
Effectivement, Antoine, c'est un feuilleton compliqué depuis plusieurs semaines. Et maintenant, on en connaît pratiquement l'issue. Alors, Chevron est l'une des plus grandes compagnies pétrolières mondiales. C'est une compagnie qui est beaucoup plus importante en termes de taille qu'Occidental Petroleum. Et par conséquent, Chevron est une société qui est également très attachée à la rentabilité de toutes ces opérations. Et ils ont estimé qu'ils ne voulaient pas surenchérir sur l'offre conjointe Total Occidental Petroleum sur Anadarko, parce que s'ils allaient plus loin, cela rendrait la rentabilité de leur investissement moins intéressante. Et Chevron est très très attentif à cet aspect des choses, la direction et ses actionnaires. Un autre élément de réponse à votre question, Antoine, c'est que, bien sûr, Chevron avait beaucoup d'intérêt pour les actifs d'Anadarko aux États-Unis et à l'étranger, mais que Occidental Petroleum et Total avaient encore beaucoup plus d'intérêt pour ces actifs que Chevron. Et dans ce domaine-là, évidemment, celui qui gagne, c'est souvent celui qui est le plus motivé, et bien sûr aussi celui qui a le portefeuille suffisamment large pour procéder à une telle transaction.
Mais alors Francis, qu'est-ce qui intéresse toutes ces majors chez Anadarko ? Est-ce que ce sont les actifs africains ?
En fait, Anadarko, Anadarko Petroleum Corporation, son nom complet, mais on dit souvent Anadarko, a des actifs très intéressants aux États-Unis, c'est une compagnie américaine, bien sûr, et sur le continent africain. Et quand on reprend les protagonistes dans cette bataille qui est en train de se terminer, leur motivation était différente. Chevron était intéressé à la fois par les actifs d'Anadarko aux États-Unis, notamment le pétrole de schiste, et en Afrique. Occidental Petroleum est surtout intéressé par les actifs d'Anadarko aux États-Unis, notamment le pétrole de schiste. Et Total est surtout intéressé par les actifs d'Anadarko en Afrique. Donc l'Afrique joue un rôle très important parce que parmi deux des trois protagonistes, Total et Chevron, deux des cinq plus grandes compagnies pétrolières mondiales, l'Afrique et les actifs africains d'Anadarko, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, étaient considérés comme particulièrement intéressants et particulièrement attrayants.
Justement, est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ces pays africains, sur ces actifs africains clés qui sont convoités par Total ?
Très volontiers, Antoine. En fait, Anadarko a des actifs intéressants, pétroliers et gaziers, dans quatre pays africains. Un pays en Afrique du Nord, l'Algérie. Trois pays en Afrique subsaharienne, le Ghana, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Ces quatre pays, en termes évidemment d'actifs pétroliers d'Anadarko, ne peuvent pas être mis sur le même plan. Il y a en fait trois catégories. L'Afrique du Sud, ce sont des permis d'exploration. Alors ces permis peuvent évidemment être très intéressants, mais l'exploration c'est le risque. On ne sait pas si on trouvera du pétrole ou du gaz, ou les deux, ou rien du tout. Mais en tout cas, Total, qui a fait une découverte il n'y a pas si longtemps cette année de gaz et de pétrole en Afrique du Sud, est intéressé par ses actifs d'exploration en Afrique du Sud, mais ce n'est pas le joyau dans la couronne d'Anadarko en Afrique. Ensuite, deuxième catégorie, nous avons Algérie et Ghana. Dans ces deux pays, Anadarko a une production pétrolière plus importante en Algérie qu'au Ghana, mais dans les deux cas, une production pétrolière significative. Anadarko est impliqué dans l'exploitation de champs pétroliers dans le désert du Sahara, dans le bassin de Berkine en Algérie, et en mer, en offshore, comme disent les pétroliers, au large des côtes du Ghana. Donc pour celui qui rachète ses actifs, en l'occurrence Total, ça veut dire que tout de suite, le groupe français va voir sa production pétrolière augmenter en Afrique, pas de risque puisque les gisements ont déjà été développés et sont en production. Le troisième élément, et c'est vraiment sans doute le joyau de la couronne d'Anadarko en Afrique, c'est le Mozambique. Au Mozambique, Anadarko est dans le développement d'un projet de gaz naturel liquéfié, un futur projet, mais géant, d'exportation de gaz naturel liquéfié, ce qu'on appelle souvent le GNL. Et ça, c'est vraiment le Mozambique, ce qui attire tout particulièrement, ce qui attirait Chevron et ce qui attire Total dans cette alliance avec Occidental Petroleum. Total est un groupe très important dans le domaine du gaz naturel liquéfié, dans différentes régions du monde, y compris en Afrique. Et ce projet en mer au large du Mozambique est un projet qui est bâti sur des réserves de gaz très importantes et qui, dans les années qui viennent, débouchera sur une production et des exportations de gaz naturel liquéfié très importantes, notamment vers le marché asiatique. Et Total est donc par conséquent assuré maintenant de remporter la mise liée aux actifs africains d'Anadarko, notamment ce projet, ce futur projet de GNL en Afrique au large du Mozambique.
Et oui, hein, ce projet mozambicain, je pense que nous allons en reparler prochainement avec vous, Francis Perra, puisque c'est un projet, vous le disiez, vraiment très 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 important pour cette filière du GNL. Merci beaucoup, Francis Perra.
Merci beaucoup Antoine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, je rappelle que vous êtes chercheur au Policy Center for the New South. Merci beaucoup.
Allez, un petit saut dans le futur.
À quoi ressemblera la voiture de demain ? C'est le Culture Éco.
Moi, quand j'étais petite, je pensais que dans le futur, nous serions tous pilotes d'un bolide volant.
Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route ? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
Une DeLorean volante ?
Nous sommes en 2019 et dans le ciel, pas de voiture à l'horizon.
Mais qu'est-ce que c'est que ces salles ?
Pourtant, en matière d'innovation, le secteur automobile ne manque pas d'imagination. Chaque année, des dizaines de prototypes sont présentés dans les salons de l'auto. La dernière nouveauté en matière de voiture volante, c'est un modèle signé Airbus. Et oui, ça ne s'invente pas.
Une voiture autonome, ça vous en avez pris l'habitude, avec une forme relativement classique. Mais la nouveauté, elle est là dans les airs. Regardez ces pales ici, il y en a quatre. Parce que cette voiture peut tout simplement se transformer, oui vous l'avez bien compris, en hélicoptère.
Airbus, mais pas que, nombreux sont les constructeurs à se lancer dans la voiture volante, notamment Toyota avec SkyDrive. La marque nippone a pour objectif de faire voler le véhicule en démonstration pour allumer la flamme olympique des Jeux de Tokyo en 2020, rien que ça. Sa vente est prévue en 2023, le prix ça en revanche, on ne sait pas encore. La voiture volante, ce rêve d'enfant qu'on touche du bout des doigts donc. Mais bon, il y a d'autres choses. Quoi d'autre alors ? La voiture des amoureux. Ouais, intérieur cuir et velours rouge, ambiance.
Imaginez pour un couple qui veut échapper pour un week-end long romantique. Alors, pour ça, il fallait naturellement un GT, un coupé avec des proportions extraordinaires, mais aussi une façon de rentrer un peu dramatique. Alors, on glisse dans la voiture et quand on est dans la voiture, on s'installe son smartphone, on voit ce qu'il y a tous sur l'écran, le grand écran qui montre toutes les connectivités. On peut même choisir un mode autonome et la voiture est puissante.
Dans un autre style, un tout autre style. Plus familial, la voiture maison. Là, vous n'êtes plus au volant, vous profitez du voyage avec vos enfants à l'arrière avec télévision, jeu, tablette intégrée.
On va pouvoir faire pivoter les sièges pour reconfigurer l'intérieur comme on veut. Voilà, beaucoup plus convivial. On est en mode salon avec une petite table au milieu. On peut discuter, lancer une partie de jeu de société. Si on est avec des collègues, on peut se faire une petite réunion de travail improvisée. Voilà, c'est quelques-unes des innovations qui sont imaginées. Et puis on pourra même piquer un petit roupillon aussi, pourquoi pas. Hop là, on met le siège en mode couchette et on va pouvoir s'endormir tranquillement.
Encore une fois, c'est un projet qui ne verra le jour que bien plus tard, ou même peut-être jamais. Il faut se dire que le futur, c'est maintenant. Si on remonte un peu en arrière, en 1968, l'avenir était électrique.
Pour les villes, certainement, que là, l'attraction électrique doit son avantage à son sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument ménager.
Vous ne la connaissez pas ? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzens. Paul Arzens, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF.
Et oui, les voitures électriques sont aujourd'hui largement commercialisées, comme quoi tout est possible.
Allez, on coupe le moteur.
Éco sans frontières, c'est terminé, on vous rend les clés.
N'oubliez pas qu'on est dispo sur les plateformes de podcast.
Excellente journée.
Et très bon week-end.